Radio Cité Genève. L'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je reçois un couple, et c'est un couple que je vais interviewer, Adelina et Egon von Fürstenberg. Adelina d'abord, honneur aux dames, bonjour Adelina.
Bonjour.
Et puis Egon, bonjour Egon.
Bonjour.
Alors je suis très heureuse de vous recevoir tous les deux, parce que vous êtes tous les deux d'incroyables personnalités, et vous avez fait des choses formidables, on va en parler tout à l'heure, on va égrener tout ça. Et vous vous êtes d'abord, il faut le savoir, rencontrés autour de l'art. Vous êtes vraiment deux personnes dont la vie est centrée autour de l'art. La raison de votre venue aujourd'hui, c'est un livre. Alors c'est un livre dans lequel vous avez rassemblé des photos qui ont été prises, si j'ai bien vu, entre 1974 et 2018. Et vous avez photographié, c'est Egon qui a photographié, c'est lui le photographe, des artistes côtoyés, des étudiants, des assistants qui ont monté les expositions, toutes sortes de gens, et parmi eux, des gens qui sont, à l'époque, qui n'étaient pas très connus, et qui aujourd'hui sont devenus des icônes de l'art contemporain. Et le grand talent d'Egon, c'est qu'il a pris tout ce monde sur le vif, et j'allais dire que c'était au naturel. Et le livre s'appelle « Photographing Art », et il est édité chez Skira, on va en parler aussi tout à l'heure. Mais comme il est important que nos auditeurs sachent qui vous êtes et ce que vous avez fait l'un et l'autre, ma chère Adelina, je commence par toi. Tu es née arménienne et suisse.
Oui.
Où est-ce que tu as grandi?
Écoute, je suis née à Istanbul, j'ai passé quelques années, les premières années de ma vie, ensuite ma famille vivant à Milan est partie. On habitait un peu à Milan, j'étais chez les sœurs. Après, on a vécu à Lugano, en Suisse italienne. Donc, mon éducation italienne a continué jusqu'à que je suis arrivée à l'université ici à Genève, car j'avais la famille Godel qui était les cousins de ma mère.
Si on a bien compris, tu es quand même née à Istanbul, en Turquie, hein, c'est
ça? Je suis née à Istanbul, je suis arménienne.
Voilà, et après on t'a emmenée en Italie, et puis en Suisse.
Oui, et puis en Autriche, et puis partout dans le monde, et puis j'ai étudié les sciences politiques à Genève.
Attends, ne brûle pas les étapes, parce que nous on veut vraiment savoir qui tu es. Je crois que tu es la petite fille d'un très grand architecte,
hein,
de Suisse.
Hein. Architecte voilà. Arménien de l'époque ottomane du 19e, 20e siècle.
Ah très bien,
siècle.
Pas suisse alors du tout.
Non.
Pas suisse, d'accord. Donc tu étudies les sciences politiques à l'université de Genève et pendant ce temps-là, on est en 1974, alors tu as l'idée de créer le Centre d'art contemporain de Genève.
Oui, mais tu sais, les idées ne viennent pas comme ça. On doit avoir des idées quand on est aussi entouré de personnes qui vous inspirent ou des choses que vous voyez. Autrement, les idées sont dans l'air, tout le monde peut avoir des idées. Donc, c'est une période historique où l'art, ça jaillissait partout parce qu'il y avait aussi une sorte de recherche de liberté chez les jeunes. À l'université, il y avait beaucoup les choses qui bougeaient. Et puis, j'ai eu la chance de voir l'exposition de Harold Zeman à Kassel, qui était une chose magnifique. J'ai allé à Amsterdam, j'ai fait des stages au Stedelijk Museum en parallèle de sciences politiques. J'avais ce double vie.
Adelina, tes parents t'avaient initié à l'art ou...
Ma mère, oui, elle était une femme de culture et mon père était industriel textile, donc quand j'étais petite, il m'amenait dans le storage, dans le dépôt de son usine, il me faisait toucher les gants, l'eau de tissu, il me disait « touche la qualité », et cette histoire de toucher la qualité, ça m'a resté, j'aime beaucoup toucher les sculptures, j'aime beaucoup toucher... Pas les peintures, évidemment, mais tout ce qui est... Parce que à travers tous les sens, on peut apprendre l'art. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai créé dans la cité universitaire de Genève le premier centre contemporain en Europe. Il n'existait pas ce titre. C'est moi-même qui l'ai mis, inspiré par les Kunsthalle suisse-allemandique.
Donc ça, on est en 1974.
Oui.
Et tu l'as dirigé jusqu'en 1989, je crois.
J'étais obligée de diriger jusqu'à l'époque parce qu'il n'y avait pas vraiment de moyens. Tout était fait avec peu de moyens, mais à l'époque aussi, tout coûtait moins cher. Donc, on faisait des choses assez extraordinaires avec peu. Et finalement...
Tu as présenté des expositions de pionniers du pop-art,
oui.
Fluxus...
Oui.
L'art conceptuel.
Mandy Warhol, Joseph Beuys, surtout...
Christian Boltanski, Daniel Buren, Sol LeWitt, Andy Warhol.
Surtout l'exposition qui a marqué les gens, c'était l'exposition Promenade au parc Lulin de Gento, qui était absolument extraordinaire, inspirée de Rousseau, déjà à l'époque.
Alors avec des sculptures. Hein?
Des sculptures faites...
Et puis des installations d'artistes de l'Arte Povera, c'est
oui,
ça?
Oui, faites sur place, exprès. Et je vais dire encore aujourd'hui, ça m'a fait plaisir, on en parle de cette exposition, qui était le pionnier des grandes expositions en plein air, en fait.
Alors moi, j'ai quand même une question, Adelina. Pourquoi tu as fait des sciences politiques pour faire tout ça?
Heureusement que j'ai fait les sciences politiques. Tu imagines si je serais restée toujours là pour l'art dans un monde en transformation, en changement, où il faut avoir une prise de conscience sur ce qui se passe. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire de l'art pour l'art et imaginer que l'art vous décore votre maison. L'art est une manière d'apprendre la vie et les sciences politiques et l'art ensemble m'ont permis de créer l'organisation Art for the World, qui est un ONG associé aux Nations Unies, au UNDPI plutôt, Département d'information publique. Et ça me permet de travailler avec les artistes sur des questions importantes comme l'environnement, le changement climatique, les droits de l'homme. Donc ça a été extrêmement utile. J'ai mis de côté les sciences pendant plusieurs années, mais ma conscience est revenue avec la maturité, disons.
Ma chère Adelina, on va voir un peu plus tard tout ce que tu as encore fait, mais en attendant, on va choisir d'écouter alors ce que Egon a décidé, car c'est lui qui a décidé les aujourd'hui. On écoute quoi, Egon? C'est toi qui nous l'annonce. Alors,
moi, j'ai choisi en fait la symphonie numéro 5, premier mouvement, parce que ça... Pour moi, ça signifie la vie, en fait.
Alors, on écoute Beethoven ensemble, alors, tous les trois.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau. Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire-priseur. Et c'est Adelina von Fürstenberg que j'interview aujourd'hui. Dans un premièrement, puisque au cours de cette émission, on va voir que c'est son mari, photographe, le célèbre photographe Egon von Fürstenberg, qui a pris les photos d'un livre dont nous allons parler tout à l'heure, Photographing Art, chez Skira. Très beau livre, on en parle tout à l'heure. Pour le moment, ma chère Adelina, on va encore parler de tout ce que tu as fait, que nos auditeurs comprennent le personnage important que tu es dans l'art. Donc on est en 89, là tu nous as expliqué que tu as préparé à Genève, tu as fait la promenade et en plein air sur les rives du lac Léman, au parc Lulin à Gentot. Puis après tu fais The Line of Fire, une maquette de musée, c'est ça ?
Alors, le Line of Fire, c'est aussi une histoire assez extraordinaire parce que, à l'époque, le centre d'art contemporain que je dirigeais se situait avec ses espaces artistiques au Palais Wilson. Et cette année, donc il y avait les bureaux, mais il y avait des grandes salles d'exposition. Et cette année-là, Daniel Libeskind, le grand architecte américain, avait reçu le Lion de Pierre pour une série de magnifiques maquettes à l'échelle 1-1 qu'il avait fait pour la Biennale de Venise. Je l'ai invité à présenter en septembre cette maquette et je lui ai dit on a fait venir avant qu'on parte en vacances pour pouvoir le retour. Eh bien, cette année-là, le 1er août 89, ça brûlait le Palais Wilson. Et ça brûlait le Palais Wilson avec tout ce qu'il y avait dedans, le centre de l'Europe, les dépôts du musée d'art d'histoire, le centre d'art, etc. Ça a été un choc épouvantable, personne ne se rappelle. Et là, nous, on s'est trouvés sans espace avec toutes ces œuvres d'art brûlées. Heureusement qu'on était assurés, donc ça s'est bien passé. Et du coup, j'étais très proche d'une journaliste, la vétérane des journalistes accrédités aux Nations Unies, qui est une philosophe, Madame Engelson, m'a pris par la main, m'a amené chez le directeur de l'ONU et lui a dit, voilà, ils n'ont plus d'espace. Et lui, il a dit, c'était l'ancienne Société des Nations, vous êtes bienvenus, vous pouvez utiliser tous les espaces des agences onusiennes. Et ainsi, cette année-là, on a fait toute une série d'expos aux différents endroits. Et Daniel Libeskind, je l'ai invité à présenter une nouvelle pièce au BIT dans la salle des Pas Perdus. Et là, il a créé ce zigzag de Line of Fire, inspiré du feu. Et c'est un zigzag. Imaginez-vous que c'est une énorme maquette 30 mètres environ, toute la salle de papier. Imaginez-vous que plus tard, quelques années plus tard, il a fait de cette maquette le musée de l'Holocauste à Berlin. Donc ça, c'est très important de tenir compte que nous, comme on travaille, encore une fois, je répète, on ne fait pas l'art pour l'art, parce que ce qu'on fait, ça pousse avec le temps. Et si on travaille avec des artistes d'un certain, ou architectes, ou écrivains d'un certain type, rien jamais jeté de la fenêtre une fois présenté pendant un mois ou deux, tout se recycle, et dans la vie, l'art se recycle, c'est un peu une philosophie animiste.
C'est vivant, animiste. Là. C'est vivant, c'est la vie.
Donc, il a recyclé le concept de ce désastre du Palais Wilson en créant un musée permanent sur le même thème. Voilà, ça c'est la raison.
Alors en 1993, à la 45e Biennale de Venise, tu étais la curatrice du pavillon Italie et du pavillon russe, les deux à la fois.
Non, j'étais pas vraiment curatrice, j'avais mes élèves, j'avais une école de curateurs en même temps que je dirigeais le magasin de Grenoble. On était tous invités à travailler sur tous les pavillons. Et donc, à cette année-là, justement, le pavillon russe, pour parler du pavillon russe, c'était Ilya Kabakov, et c'était l'année où le mur était tombé, l'année avant le mur qui était tombé, ou deux années après. Il n'y avait aucun curateur, rien du tout. Il y avait juste l'artiste, il n'y avait personne qui s'en occupait. Et Paul Yolès, à l'époque, le secrétaire d'État pour l'économie de la Suisse, qui était aussi le président de Kunsthalle et de Berne, m'a appelé, m'a dit, puisqu'il était collectionneur et ami des artistes, m'a dit, il y a ce pavillon, il n'y a personne. Alors avec l'école, mes élèves vont s'occuper de ça.
Alors, tu as été en tout cas extrêmement active. Et en 1995, tu as conçu l'exposition Dialogue de paix. En 1997, on est obligé d'aller un peu vite parce que vous êtes tous les deux. À la Biennale de Venise, tu as montré Robert Aschenberg et puis tu as montré Yanis Kounelis, qui est un artiste que j'aime beaucoup personnellement, puis Joseph Kossuth. Et puis, écoute, on n'en finit pas en fait de dire Marina Abramović aussi. On n'en finit pas de dire tous les artistes que tu as montrés et toutes les, et je vais dire, toutes les expériences autour de l'art que tu as menées avec un immense succès. Et en 2012, tu as été la curatrice de Food. Alors, qu'est-ce que c'est, Food? Il faut raconter ça quand même.
Alors, c'est là où ça a un peu déclenché mon intérêt et de mon équipe et de moi-même de tout ce qui est changement climatique, nourriture, etc. Parce qu'on a... vous savez, nous avons aussi une association en Italie et mon bureau de Milan avait étudié, puisque c'était pendant l'Expo Milan où c'était le sujet principal, c'était food. On avait étudié l'agriculture et les relations avec la mère terre et tout. Et c'était une exposition qui parlait de nourriture, mais d'une manière, disons, plus écologique, plus liée à l'agriculture, à l'eau. Et là, on a fait une exposition. On a eu la chance que la ville de Genève nous a soutenus. C'était une des premières fois, peut-être. Et on nous a proposé de l'exposer au musée de l'Ariana, que j'adore. Et là, on a pu faire cette expo food et sur les différentes manières que les artistes réfléchissaient sur la question de la nourriture. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est une exposition
qui... Non, on ne peut pas, ma chérie, parce qu'il faut te dire encore que tu as eu le Lion d'or aussi pour le pavillon d'Arménie en 2015. Ouais. En 2016, tu as reçu le Swiss Grand Award pour l'art, c'est le prix Meret Oppenheim. Tu as créé et produit un long métrage, Stories on Human Rights. Écoute, on n'en finit pas. C'est formidable tout ce que tu as fait. Et tu es une personne en plus d'une très grande modestie. Parce que les grands sont très modestes.
Mais il faut juste que je te cite cette phrase parce que là, peut-être tu comprendras. J'ai vu l'autre chose, un film magnifique sur l'artiste polonais Sterminski qui a beaucoup souffert pendant l'époque stalinienne en Pologne. Certainement, il dit cette phrase qui m'a énormément touchée, qui dit « Avec l'art et l'amour, on donne ce qu'on a ».
C'est beau, Adelina. Et maintenant, on va écouter... Le choix d'Egon en musique, puisque c'est Egon qui a choisi toutes les musiques que nous écoutons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on écoute, Egon ?
Moi, j'avais pris Frank Sinatra, « Fly me to the moon », parce que ça fait très longtemps, je voulais devenir pilote. Je suis devenu pilote, mais malheureusement, j'étais à un moment donné collé à terre à cause d'une maladie et je ne pouvais plus le devenir. Mais dans ma tête... J'ai toujours eu l'envie de devenir pilote, alors j'ai choisi cette chanson de Frank Sinatra, « Fly me to the moon ». Et voilà.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau.
« Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans l'œil du commissaire-priseur. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est un couple que j'interviewe. J'ai commencé par Adelina von Furstenberg. On a vu le nombre de choses extraordinaires qu'elle a fait dans l'art. Et puis maintenant, je vais interviewer son mari, Egon, qui a fait tout autant de choses. C'est vraiment un couple inouï et je suis heureuse de partager leur expérience, leur vie et ce qu'ils ont tout à l'heure. On parlera du livre Photographing Art, édité chez Skira, parce que il reste des traces de tout ça. Et dans ce livre, on en voit beaucoup, beaucoup de photos, belles photos. Alors, mon cher Egon, tu as une vie incroyable aussi. Hein, tu es né en 39 à Berlin, si je ne m'abuse.
C'est exact.
Maman était mexicaine et ton père allemand.
C'est exact. Oui.
C'est toujours exact. Et tu es né d'une très illustre famille princière originaire de la Souabe. C'est vrai aussi?
Je suis né, pas princière, mais comte.
Comtal, d'accord.
Comte, je suis né à Berlin. La famille vient de Herdringen, qui est tout près de Essen, dans le nord
de l'Allemagne.
Ouest de l'Allemagne, voilà.
Alors, pendant la guerre, tu es parti avec ta mère en Espagne, et puis au Kenya, oui. Puis tu es venu dans le sud de la France.
Oui, elle a épousé un Égyptien en Espagne, qui était le fils de l'ambassadeur égyptien à l'époque. Et elle avait épousé ce monsieur, qui était très gentil, qui connaissait beaucoup de langues. Et puis, à la fin de la guerre, on est parti, il nous a amenés à Paris. Et de là, j'ai été envoyé dans une école de jésuites dans la Sarthe, au nord de la France.
Tu n'as pas dû t'amuser tellement là-dedans. Hein. C'était pas drôle, les jésuites.
Non, pas du tout. Surtout après la guerre, en fait, en France, j'étais le seul petit Allemand. C'était très pénible.
Ah oui.
Mais lui, il nous a amenés au Kenya. Pour aller en Afrique, en fait, on a pris un dernier qui était très, très mouvementé. Tout le monde était vert, etc. L'avion, il bougeait par tous les côtés. Et, bon, bref, mais le Kenya était une merveille. On a passé Noël sur le Nil. Le tout, ça m'a laissé une... C'était un rêve, en fait.
C'était un rêve réalisé.
Dans mon enfance, oui.
Alors, tu as le livre dont je parle sans arrêt, mais on va en parler un petit peu maintenant, et on en reparlera beaucoup tout à l'heure, Photographing Art, chez Skira, a été préfacé par un de tes amis qui s'appelle Denis Zakharopoulos, et qui a raconté beaucoup de ta vie dans la préface. Alors, j'ai lu ça avec délectation, parce que j'ai vu que tu avais travaillé sur un cargo entre Portland et Maracaibo.
Oui.
Ça, c'est une expérience.
J'étais sur un pétrolier, comme un marin ordinaire, à nettoyer les cabines et à faire le travail d'un marin ordinaire. D'ailleurs, j'avais toujours le mal de mer avant, et ça, ça m'a coupé le mal de mer.
Ça te l'a fait passer.
Je me disais, moi, le mal de mer avec tous ces marins, ça se fait pas, et ça m'a...
Ça t'a guéri.
J'ai eu le mal de mer après.
J'ai vu que tu avais travaillé aussi dans une plantation d'ananas à Veracruz.
Oui, c'est juste. J'étais envoyé, en fait, j'avais un membre de la famille qui tenait la, au Mexique une agence qui s'appelle Del Centro, qui avait des contacts avec certaines agences de pour acheter des plantations, etc. Et j'étais envoyé sur une plantation où ils ont des ananas, c'est-à-dire sur une partie de Veracruz, il y a des grandes plantations d'ananas.
Et qu'est-ce que tu faisais dans la plantation d'ananas ?
Là, on faisait des contrats avec...
Ah, tu travaillais dans les bureaux quand même, pas dans les ananas.
On faisait des contrats pour acheter les ananas, etc.,
d'accord,
pour les envoyer à l'usine, etc., pour faire le moment.
Bref. Et puis j'ai vu que tu as été finalement pilote d'avion aussi. Tu as été pilote d'avion en Écosse.
En Écosse. Oui, j'ai piloté en Écosse. Je me suis beaucoup amusé, mais j'ai beaucoup travaillé pour avoir un brevet de pilote commercial. Mais en fait, je suis resté en Écosse pour...
Alors,
des baptêmes de l'air pour...
Pour faire des baptêmes de l'air. Mais tu as découvert à peu près à cette époque-là, tu étais très jeune, ta vocation
j'avais
de photographe.
17 ans, j'avais 17 ans quand j'ai commencé à piloter.
Oui. Ah oui, quand même. Ouais. Mais tu n'avais pas encore...
Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps. Mais alors écoute, Egon, moi je voudrais parler maintenant de ta vocation de photographe. J'ai vu que quand tu as été l'assistant de Pierre Cardin à Paris, tu étais déjà photographe ?
Non.
Pas du tout.
Ça, c'est ma mère qui m'a mis là-dedans.
Ah bon ?
Parce qu'elle connaissait Pierre Cardin. Elle était... elle était involved avec Vogue, etc.
Elle faisait des photos.
Elle pensait que ça serait bien si je vais avec Cardin. Et Cardin m'a mis directeur de la boutique, là, que je n'ai pas aimé du tout. Mais enfin, ça n'a pas duré très longtemps, mais... Là, j'ai connu Jeanne Moreau.
Ah oui, il était avec Jeanne Moreau à l'époque. Alors dis-moi, à quel moment tu as découvert ta vocation de photographe ?
J'ai toujours fait de la photo comme amateur. Et j'ai voulu rentrer dans la photo... à New York, Institute of Photography, puis on m'avait proposé de faire certains sujets, et moi, j'aimais pas du tout faire certains sujets, parce que c'était pas mon idée.
Alors, ton idée
Alors, j'ai
était laquelle
quitté ça.
Voilà.
Et en fait, quand j'ai été à Genève, j'ai travaillé pour Alain de Ferron, qui faisait de la photographie de mode et de nature morte. Et j'ai eu un jour des téléphones, j'étais derrière le bureau, lui il était à l'extérieur, et j'ai eu des téléphones d'Adelina, qui voulait un rendez-vous.
Mais comment est-ce qu'elle t'avait repéré, Adelina ? On va lui poser, on va poser la question à Adelina. Comment est-ce que tu as repéré, est-ce que tu l'as repéré Egon pour sa beauté ou pour talent de photographe ?
Non, elle cherchait un photographe parce qu'elle voulait...
Pour une exposition que je faisais à Ambiance 74, ma toute première exposition, on cherchait un photographe et quelqu'un nous a dit « Allez chez Alain de Ferron qui fait aussi des photos, pas seulement de mode, mais aussi des œuvres d'art, comédie, nature morte, etc. »
Alors elle a téléphoné, moi j'ai reçu, et puis lui il n'était pas là, et puis j'ai dit « Téléphone vers 7h, peut-être il sera là. » Et comme il n'était pas là, bon, je lui ai dit « Venez ». Elle est venue, moi j'étais derrière le bureau, elle a cru que j'étais Alain de Ferron, et j'ai dit non, je suis le petit assistant. Et puis c'est là où on s'est connus.
Et là je vois un grand sourire chez tous les deux.
C'est là où on s'est connus, et c'est là où moi je suis rentré dans la photographie d'art. où elle m'a présenté la photographie d'un Tessinois qui s'appelait Toroni, non? Il s'appelait comment le photographe? Tu te rappelles plus. Mais c'est là où ça a commencé.
C'est là où ça a commencé. Mais il n'y a pas que ça qui a commencé, Egon. Hein, ce n'est pas que ça qui a commencé. Il n'y a pas que la photo d'art qui a commencé à ce moment-là, puisque 6 mois après, vous étiez mariés. Si
oui.
Non, nous, on s'est mariés en 75.
C'est
en
ça,
65. Après.
Un an après.
Un an.
Bon, donc, c'est bien ce que je dis.
Oui.
Il n'y a pas que la photo d'art qui a commencé.
Voilà.
Il y a autre chose qui a commencé.
Voilà.
Une grande aventure qui continue aujourd'hui.
Tout à fait.
Tout à fait. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on écoute maintenant? On va écouter un peu de musique.
Alors, c'est Buena Vista, les Cubains, Social Club. Il y avait le cha-cha-cha. Comme ma mère est mexicaine, on avait beaucoup de cha-cha-cha. Et c'était merveilleux. Alors, moi, j'ai choisi ça. Parce que ça me rappelait aussi le Mexique.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juto.
Llego a Puerto, voy para Mayarín. Karamayari.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur. Vous avez compris qu'aujourd'hui, j'interview un couple et non pas seulement une personne. On a parlé avec Adelina von Furstenberg tout à l'heure. Et maintenant, c'est Egon von Furstenberg, Egon, qui est un célèbre photographe, qui nous parle. Mon cher Egon, tu veux nous raconter une anecdote? Alors nous sommes tout oui.
Ah oui, dans le Victoria Hall, moi, c'était merveilleux, le Victoria Hall. J'étais complètement emballé. J'avais un problème discal qui me faisait un mal fou. Et quand je voyais les gens danser, public danser devant moi, los cubanos qui étaient assis devant moi, ils dansaient dans leurs chaises. Après, ils se sont levés. Puis moi, j'ai décidé de me lever. J'ai dit, Adelina, on va danser dans le couloir. Tout le monde commençait à taper des pieds. Tout le monde dansait. Et je peux dire qu'après la danse, le mal de dos que j'avais a complètement disparu. Je peux vous dire que c'était un miracle.
C'est lourde.
C'était incroyable. Mais j'adorais ça. Vous savez pas. Et puis depuis, il n'y a plus jamais eu une chose pareille dans le Victoria Hall. Il n'y a jamais eu la musique cubaine comme ça.
Ah, oh, ben tu vois, elle était là juste à temps. Alors maintenant, on va parler quand même de ton œuvre de photographe, si tu veux bien. Alors, tu commences ta carrière en faisant des photos au Centre d'art contemporain de Genève que Adelina est en train de monter. Et là, ce qui est extraordinaire, et ce qu'on voit dans ce livre « Photographing Art », c'est que tu prends en photo des gens qui vont devenir plus tard des icônes internationales, absolues, des icônes de l'art, mais tu les prends au naturel, tu les prends tranquilles, comme ils sont. Au fond, c'est un accompagnement de ces gens. C'est pas, tu les fais pas poser, tu les prends sur le vif, tu les prends au naturel, je le répète.
Ça, je peux expliquer. Parce que la plupart du temps, ces artistes, ils vivaient avec nous, nous on vivait avec eux. La plupart du temps, c'était comme une famille pour nous. Et c'était pas comme m'appeler pour dire, Egon, est-ce que tu peux venir faire des photos de cette exposition? Il y a telle et telle personne qui arrive. Ou est-ce que tu peux pas venir faire des photos de cette exposition, mais il n'y a pas l'artiste? On vivait avec eux, c'était dans la peau, c'était dans ma peau, c'était un ensemble. C'est pour ça que c'était normal. Peut-être que si j'avais été appelé pour le faire, il y aurait
ils auraient posé. Oui, ils auraient posé, ça aurait été moins naturel.
Voilà. Alors, que comment vivait avec eux, ils vivaient avec nous, des fois ils restaient avec nous, ou ils dormaient chez nous. C'était une autre chose. On vivait ensemble, on mangeait ensemble, on parlait de la famille. C'était toute une vie. C'était vraiment toute une vie. C'était pas un bon chic, bon genre de choses. C'était vraiment une vie.
Alors, ça se reflète complètement dans ce livre que vous avez, voilà, dont on parle aujourd'hui. Je pense que les photos sont celles d'Egon. Et puis, c'est peut-être Adelina qui a inspiré le livre, non? Comment ça s'est passé, cette histoire du livre? Comment est-ce que vous avez décidé tous les deux?
L'histoire du livre, c'est que c'est Adelina qui a eu l'idée du livre, en fait. C'est Adelina qui a... Sans Adelina, il n'y aurait pas eu de livre.
Tu crois?
Ouais.
Tu n'aurais pas eu envie de publier toutes ces photos de...
Moi, mais oui, mais je veux dire, c'est... Le vrai envie, c'est elle qui a eu l'idée. Naturellement, une fois qu'elle a commencé, c'était bien, mais je veux dire, le punch...
C'est un sacré moteur, Adelina.
Si je peux dire quelque chose.
Mais oui, tu
en fait, c'était pendant le premier. On avait l'idée, tout le monde nous disait, Egon, fais un livre, mais on n'avait pas le temps.
Ouais, parce qu'on me disait toujours, Ah, Egon, tu fais des photos, mais on les voit jamais.
Oui, on voyait pas ces photos-là, parce qu'on voyait que les photos des expos, ces photos personnelles, on les a. Alors, pendant le premier lockdown, je m'étais vraiment ennuyé.
Et comme donc, pendant le premier confinement. Hein, pour les auditeurs suisses.
Pendant le premier confinement. Et donc, comme disait Schopenhauer, la vie entre la nuit et l'envie, ça se balance entre la nuit et l'envie, et là on a regardé ces archives, et on a regardé, et ça finissait plus, il y en avait de plus en plus. On a mis tous les premiers confinements à regarder, et après on a commencé, ça a pris 2 ans à faire ce livre, en fait.
Alors, moi j'ai une question, je ne sais pas qui va répondre, comment vous avez choisi les photos?
Ça, je peux dire moi-même, peut-être, parce que oui. Il y avait plus que 20 000, 30 000 négatifs, diapositives, tout ça. Donc, on n'a encore pas tout vu. Alors, j'ai appelé un ami, le fils d'un de mes collaborateurs qui est photographe, qui m'a déjà développé un certain. Après, on a regardé ensemble avec Egon, on a regardé des photos qui n'étaient proches à nous plutôt que des photos de pose. Mais on a fait un tri d'une plus que 2000 photos. De là, ça a diminué jusqu'à 500. Et après, avec Skira, on a choisi que, on a voulu, ils nous ont dit pas plus que 250 photos.
Alors, les 250 photos sont des 150 photos qui sont touchantes, parce qu'elles sont prises sur le vif de gens dont on sent qu'ils étaient proches de vous tous les deux. Ils ne sont pas en train de poser, ils ne sont pas en train de faire un travail de représentation. Ils sont dans la vie.
Mais vous savez, je dis vous en général, pour tout le monde, on sait que la vie est ce qu'elle est. On a des moments extraordinaires et après la vie change les attitudes. On a voulu faire aussi des chapitres pour montrer cet être ensemble. Et on a aussi fait un chapitre sur la période genevoise intense de la créativité de l'art à Genève, et que comme certains artistes comme John Hamlet, Fraoui, Gigi, etc., sont devenus également fameux et ils sont devenus également importants. Mais au fond, à quelques-uns ont touché, quelques-uns d'autres n'ont pas touché.
Mais
le fait
Adelina,
de voir leur passé.
Pour ceux qui sont célèbres, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns, comme par exemple Shen Zhen, qui est très, très célèbre aujourd'hui.
Shen Zhen, c'est un grand ami à nous, lui, sa femme, son enfant.
Oui, et encore aujourd'hui.
Oui, ils sont encore très proches, grand artiste chinois.
Oui. Il vit.
Il est décédé il y a quelques
années.
Il est décédé.
Je ne savais pas, mais il y a une belle photo de lui dans ce livre. Et puis. Il y a des gens qui sont pas très connus.
Non.
Et qui étaient des gens qui vivaient avec vous aussi, alors qui étaient des
mais
assistants.
Pas tous les artistes sont connus. Pas tous les artistes ont besoin d'être connus. Pas tous les artistes ont la chance d'être soutenus. Par exemple, lui, Barthélemy Togo, qui était mon, il était étudiant à Grenoble quand j'étais directrice et maintenant un des artistes africains les plus fameux.
Oui,
mais ça dépend le
oui.
destin. Quand on connaît les gens de près, comme nous, on a eu la chance de connaître, après on voit leur évolution et on peut voir ce que le destin nous donne aux uns aux autres.
Ça fait oui, on voit par pas. Exemple, il y a une photo là, d'Andy Warhol avec John Armleder, qui a été prise en 1980.
Ouais.
C'est très amusant, ils sont tout jeunes, on ne les imagine même pas comme ça.
Oui, il y a plusieurs photos de John dans ce livre.
Oui, il y en a beaucoup, effectivement, oui. Moi, j'adore ces photos parce que, encore une fois, il y a par exemple celle-là, Braco Dimitri Jelic.
Oui.
Alors on le voit, il est appuyé contre un mur et puis derrière lui, il y a le plateau du petit déjeuner.
C'est le plateau de l'hôtel Richemont parce que cette photo a été prise dans l'espace de John Hamlet à rue Plantamo et qui s'appelait Écart. Et là, on avait la chance, comme c'était à côté du Richemont, d'avoir ce plateau de thé tous les après-midi.
Mais c'est une très belle photo celle-là,
oui,
avec un clair-obscur formidable. Et puis là, si on... moi, je voudrais vraiment que nos auditeurs courent acheter ce livre. C'est pour ça que je voulais absolument en parler aujourd'hui à ce micro. Je répète, ça s'appelle Photographing Art. Donc, c'est signé Franz Egon von Fürstenberg, mais on a compris que le moteur de tout ça, c'était Adelina qui poussait, qui t'a poussé à sortir, à ressortir tous tes vieux clichés. Il y en avait combien, alors? Je crois que
Il y en a encore, parce que c'est... donc, on a choisi 240, mais on pourrait faire une deuxième édition. Il y a d'autres photos magnifiques encore.
Est-ce que vous avez prévu de faire un deuxième livre parce qu'on reste sur notre fin? Non, pas du tout.
Pas encore.
On vient de finir ça.
Oui, ça, c'est un grand travail. Donc, un travail de 2 ans, hein, vous avez dit tous les deux. Alors, il y a aussi des photos en couleur, pas seulement en noir.
Oui.
Il y a tout un ensemble. En fait, c'est l'histoire de l'art à cette époque-là, hein, qui est en résumé, à travers des photos vivantes.
Mais on n'a pas voulu faire chronologique. Si tu regardes les dates, c'est pas un livre chronologique, ça saute, c'est plutôt mis ensemble par rapport aux similitudes ou les contrastes entre une photo et l'autre.
Fabrice Gigi.
Par exemple, là, tu vois une photo qui date des années 98, et là, c'est en 2018.
2016, oui.
Ou 16,
2016,
voilà. Oui. Donc, on voit pas. Est-ce qu'on a voulu, avec ce livre, de pas montrer que le temps a passé? C'est pas un livre chronologique où d'abord noir et blanc, après couleur, après vieilli. Ça, on dirait que tout est encore aujourd'hui. Parce que ça, c'est notre manière de vivre. C'est une superposition de traces. On ne se rend pas compte que le temps passe.
Tu sais, c'est ma question maintenant. Quelle est la vie de tous les jours d'Adelina et Egon von Fürstenberg? D'abord, c'est à quel endroit votre vie de tous les jours?
À Genève.
Moi, je ne sais pas. Où êtes-vous? Vous êtes des globetrotteurs.
On vit partout, mais on est ici.
Ici, plutôt Genève.
On est ici, mais on vit partout. On habite à Genève et on vit dans le monde, je dirais.
Voilà. C'est joli comme expression, on vit dans le monde.
Oui, et c'est vrai. Tous les jours, moi personnellement, tous les jours, je suis en contact avec quelqu'un de...
Adelina, de tous les
Amérique du Sud, Brésil, l'Inde. J'adore ça, de vivre dans le monde. Et dans un surtout, aujourd'hui, ce n'est pas évident.
C'est vrai. Et toi, Egon?
Moi.
Alors, ta vie de tous les jours, tu fais toujours des photos?
Si nécessaire, oui.
Si nécessaire.
Oui, si elle...
Si Adelina te le demande.
Oui. Non, je fais des photos d'autres choses, mais disons...
Qu'est-ce que tu photographies aujourd'hui?
C'est plus la même chose. Disons, moi, j'avais une passion du noir et blanc, et de la couleur s'il fallait, mais disons que aujourd'hui c'est tout numérique et j'aime pas tellement le numérique. Moi j'avais une passion parce que tout ça je le développais, je le faisais les tirages.
Quand tu
etc.
dis tout ça, tu montres le livre, hein, Photographing Art. Ouais.
Je faisais tous les développements, les tirages au labo, etc. C'était une passion et c'était aussi, on savait jamais si les 36 poses étaient bonnes ou pas. Il fallait travailler dans le labo, c'était excitant, c'était fantastique. Mais avec le numérique, les gens qui font les photos avec le numérique, c'est tout du computer.
Ça t'amuse moins.
Le ciel est gris, alors ils le font tout bleu.
C'est comme on embellit les femmes hein, aussi. Hein.
Ça ne me convient pas.
Ça ne te convient pas. Alors... Je vous remercie tous les deux d'être venus à mon micro pour parler de ce livre. C'est vraiment un beau livre. C'est un livre que j'ai été ravie d'avoir. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé. Photographing Art de Franz Egon von Fürstenberg. Et on a bien compris qu'Adelina avait un rôle très important dans la création de ce livre.
Oui, ça oui. Énormément.
Énormément.
Oui.
Vous êtes un couple formidable.
J'en suis très gré qu'elle...
Mais
qu'elle m'ait aidé et qu'elle ait fait... Je veux dire qu'une grande partie de ce livre est due à Adelina.
Mais je voudrais ajouter aussi une chose. Maintenant, il me fait ce compliment. Il faut aussi s'imaginer qu'Egon, pratiquement toute la vie de professionnelle que j'ai eue ou les vacances avec les amis et tout, il a tout régulièrement photographié. Je suis une des personnes... qui a a eu la chance d'avoir des docs, de voir les images de ce que s'est passé il y a une semaine. Alors, par exemple, ça fait que c'est pour ça que je dis nos archives sont pas des souvenirs, mais sont les traces d'une vie. Et on a maintenant cette question de où laisser ces archives des photographiques d'Egon, parce que ce qu'on voit dans celui, c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a d'autre, aussi au niveau, je sais pas moi, même anthropologique, la manière qu'on vivait il y a quelques 30 ans en arrière, aujourd'hui, ou bien comment les gens se comportaient. On regarde ces livres, on voit des regards qu'on n'imagine pas. Il y a cette image incroyable de Joseph Beuys et Andy Warhol, qui ont travaillé ensemble pour les... Warhol a fait le portrait de Beuys, et après on a fait la conférence de presse à Naples, et là tout le monde disait ils sont géniaux, comme ils ont bien travaillé ensemble. Non, en regardant ces photos, on se rend compte que Beuys ne supportait pas Warhol. Ah, oui. Il tirait la gueule, mais les journalistes ne voyaient pas ce jour-là ça, parce que la fête, les gants, tout. Et quand on regarde ces photos, à cause du fait que lui a photographié de cette manière, on peut même lire l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan? Quelle est la relation entre les gens? Leurs amitiés, leurs regards, le truc. Donc, pour les chercheurs, c'est extraordinaire comme matériel. Et il y a énormément, il faut maintenant savoir où il veut laisser. Il y a plusieurs demandes pour laisser ses archives. Mais moi, j'aimerais bien que ça reste en Suisse, parce que tout ça ne serait pas été fait si on n'habitait pas ici.
Il y a le musée Élysée Photo.
Ça jaillit d'ici. Mm. Ça jaillit d'ici et c'est arrivé dans le monde. Donc, et encore maintenant, c'est comme ça.
Alors, c'était Adelina et Egon von Fürstenberg avec leur livre que j'engage vraiment nos auditeurs à courir acheter, Photographing Art, édité chez Skira. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à tous les deux. Merci à notre réalisateur, merci. Olivier Steinmetz, qui nous a enregistrés aujourd'hui. Et à bientôt, peut-être pour un autre livre.
Merci.
Merci à vous. Merci.
Radio Cité Genève. L'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end.
Dance me to the end of love.